en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Pierre Curie. Voici un nom que tout écolier de France a entendu prononcer au moins une fois dans sa vie. Le nom de ce savant français qui, associé à Marie Curie, a écrit l'une des plus belles pages de la science moderne, celle qui devait conduire à la découverte de la radioactivité et valoir à ce merveilleux couple de savants le prix Nobel de physique en 1903. Découverte majeure qui vaut aujourd'hui à chacun de ces génies d'être entré dans le panthéon de notre histoire nationale, en même temps que dans l'Olympe de la science, mais ces éléments fixés et la part de légende mise de côté, que sait-on vraiment de Pierre Curie? Qui était cet homme qui, par la profondeur de ses travaux et l'importance de ses découvertes, allait donner à la science un élan radicalement nouveau? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce portrait en habit vert, avec David Mascret, Fernand Guillot pour la voix de Pierre Curie et Brigitte Veil pour la voix de Marie Curie.
Pierre Curie est né à Paris, rue Cuvier, le 15 mai 1859. Il est le second fils d'un médecin, le docteur Eugène Curie, lui-même fils de médecin. La famille est d'origine alsacienne et protestante. Les Curie, jadis des bourgeois modestes, sont, de génération en génération, devenus des intellectuels, des savants. Le père de Pierre, obligé d'exercer la médecine pour gagner sa vie, est un fervent de la recherche scientifique. Il a été préparateur au laboratoire du muséum et il est l'auteur de travaux sur l'inoculation de la tuberculose. Ses deux fils, Jacques et Pierre, ont été, dès l'enfance, attirés par les sciences. D'esprit indépendant et rêveur, Pierre n'a pu se plier à la discipline et au travail systématique des lycées. Il n'a jamais été à l'école. Certes, celle-ci n'est pas encore obligatoire, mais dans la France du Second Empire, et chez les personnes lettrées, cette situation est plutôt atypique. Chez les Curie, elle relève avant tout d'un choix. Le docteur Curie, comprenant que ce garçon trop original ne saurait être un brillant élève, l'a d'abord instruit lui-même, puis il l'a confié à des précepteurs de renom. Comme Pascal, comme Leibniz, Pierre Curie fera donc l'essentiel de son éducation seul, partagé entre la lecture des livres de la bibliothèque paternelle et la découverte de la nature lors des sorties dominicales. Les parents de Pierre ont en effet l'habitude de fréquenter la campagne et de se promener aux environs de Paris. Très vite, Pierre va ainsi devenir un expert de l'observation, connaissant par cœur tous les noms des plantes et des animaux. À l'âge de 14 ans, il est confié à un remarquable professeur de mathématiques, M. Bazille. Cette éducation libérale et de haut niveau ne tarde pas à porter ses fruits. Le 9 novembre 1875, à l'âge de 16 ans, Pierre est reçu bachelier en sciences. Le 21 novembre 1877, il obtient sa licence en sciences physiques de l'école de pharmacie. Cette même année, il n'a alors que 19 ans, il est nommé préparateur du professeur Dezin à la faculté des sciences de Paris, poste qu'il occupera pendant 5 ans. Avec son frère Jacques, lui-même licencié et préparateur à la Sorbonne, il se lance dans l'étude des cristaux. Les cristaux fascinent en effet les deux frères. Dès 1878, ceux-ci s'attachent à étudier les lois physiques déjà établies sur les structures cristallines, telles que la pyroélectricité, c'est-à-dire l'apparition de charges électriques sur un minerai chauffé. Ils vérifient, fait déjà connu à l'époque, que tous les cristaux ne sont pas pyroélectriques, et établissent que seuls les cristaux démunis de centre de symétrie, une caractéristique des cristaux émièdres ou du quartz, topaz et autres, vérifie cette propriété. Munis de ces observations, les deux frères établissent alors que la variation des dimensions du cristal est à l'origine de l'électrisation. Dès lors, une réflexion s'impose à eux. Si la théorie est vraie, comprimer le cristal de façon mécanique devrait aussi avoir des effets sur l'électrisation, effets plus fréquents et plus facilement mesurables que ceux observés dans les cas de cristaux pyroélectriques, car les contraintes et restrictions de symétrie sont moins grandes pour la piézoélectricité que pour la pyroélectricité. La voie est ouverte pour la mise en évidence d'un phénomène fondamental, la piézoélectricité. En 1880, l'hypothèse est d'ailleurs confirmée. Pierre et Jacques démontrent qu'un potentiel électrique est créé quand des cristaux sont compressés. L'année suivante, sous l'influence de Gabriel Lippmann, qui publie en juillet un article intitulé « Principe de la conservation d'électricité », les deux frères établissent l'effet inverse. Des cristaux peuvent être déformés quand on les soumet à un champ électrique. La mise en évidence de ces effets les conduit au passage à inventer un appareil nouveau dont les applications sont multiples, le quartz piézoélectrique, qui sert à mesurer avec précision de faibles quantités d'électricité. En 1883, les deux frères se séparent à regret. Jacques est nommé professeur à Montpellier. Pierre devient chef de travaux à l'école de physique et de chimie de la ville de Paris. Bien que les manipulations et des élèves de l'école lui prennent beaucoup de temps, il poursuit des travaux théoriques sur la physique cristalline. Ces travaux aboutissent à l'énoncé du principe de symétrie, qui deviendra une des bases de la science moderne. Reprenant ses études expérimentales, Pierre Curie invente et construit une balance scientifique ultrasensible, la balance Curie. Puis il entreprend des recherches sur le magnétisme et obtient un résultat capital. La découverte d'une loi fondamentale, la loi de Curie, qui dit que la susceptibilité magnétique de certaines substances ferromagnétiques est inversement proportionnelle au zéro absolu. Autrement dit, il établit le point de Curie, point où une substance ferromagnétique perd ses caractéristiques magnétiques. Pour ses efforts, couronnés d'éclatants succès, pour les soins constants qu'il prodigue aux 30 élèves qui lui sont confiés, Pierre Curie reçoit de l'État français, en 1891, après 15 années de travail, un salaire de 300 francs par mois. À peu près ce que gagne à l'époque, dans une usine, un ouvrier spécialisé. Mais lorsque le plus célèbre savant anglais, Lord Kelvin, vient à Paris, il ne se contente pas d'aller à la Société de physique entendre les communications de Pierre Curie. Ce vieillard illustre, écrit au jeune physicien, lui parle de ses travaux avec admiration, sollicite des rendez-vous. Lord Kelvin à Pierre Curie, août 1893. Cher monsieur Curie, je vous remercie infiniment d'avoir pris la peine de me procurer un appareil qui me permet d'observer si commodément la magnifique découverte expérimentale du quartz piézoélectrique que vous avez faite avec votre frère. J'ai écrit une note pour le Philosophical Magazine précisant que vos travaux étaient antérieurs aux miens. Cette note devrait arriver à temps pour paraître dans le numéro d'octobre, sinon elle paraîtra certainement en novembre. Au cours de leur rencontre, où les deux hommes discutèrent pendant des heures de questions scientifiques, l'étonnement du savant anglais dut être grand de constater que Pierre Curie travaillait, sans collaborateur, dans un local piteux qu'il consacrait à des besognes maigrement payées, le plus clair de son temps, et que presque personne, à Paris, ne connaissait le nom d'un physicien que lui, Lord Kelvin, considérait comme un maître. Pierre Curie est encore bien autre chose qu'un physicien remarquable. Il est l'homme qui, sollicité de poser sa candidature à un poste qui améliorerait sa situation matérielle, répond
« On m'a dit qu'un des professeurs donnerait peut-être sa démission et que je dois, en ce cas, poser ma candidature à sa succession. Vilaine corvée que celle d'un candidat à une place quelconque. Et je ne suis pas habitué à ce genre d'exercice, démoralisant au premier chef. Je regrette de vous en avoir parlé. » Je crois que rien n'est plus malsain pour l'esprit que de se laisser aller à des préoccupations de ce genre.
Proposé par le directeur de l'école de physique pour une décoration, les palmes académiques, il refuse en ces termes.
Monsieur le directeur, Monsieur Muset m'a dit que vous aviez l'intention de me proposer de nouveau au préfet pour la décoration. Je viens vous prier de n'en rien faire. Si vous me procurez cette distinction, vous me mettrez dans l'obligation de la refuser, car je suis bien décidé à n'accepter jamais aucune décoration d'aucune sorte. J'espère que vous voudrez bien m'éviter une démarche qui me rendra quelque peu ridicule auprès de bien des gens. Si votre intention est de me donner un témoignage d'intérêt, vous l'avez déjà fait, et d'une façon bien plus efficace, dont j'ai été fort touché, en me donnant les moyens de travailler à mon aise. Agréez, je vous prie, l'assurance de mon complet dévouement.
Pierre Curie est aussi, ou du moins il aurait pu être, un écrivain. Cet homme dont l'instruction fut si fantaisiste, a un style original, élégant, fort.
Étourdir de grelots l'esprit qui veut penser. La citation est de Victor Hugo dans Le Roi s'amuse. Pour que, faible comme je le suis, je ne laisse pas ma tête aller à tous les vents, cédant au moindre souffle qu'elle rencontre. Il faudrait que tout fût immobile autour de moi, ou que, lancé comme une toupie qui ronfle, le mouvement même me rendît inaccessible aux choses extérieures. Lorsqu'en train de tourner lentement sur moi-même, j'essaie de me lancer un rien, un mot, un récit, un journal, une visite, m'arrête, m'empêche de devenir gyroscope ou toupie, et peuvent reculer ou retarder à jamais l'instant où, pourvu d'une vitesse suffisante, je pourrais, malgré ce qui m'entoure, me concentrer en moi-même. Il nous faut manger, boire, dormir, paresser, aimer, c'est-à-dire toucher aux choses les plus douces de cette vie et pourtant ne pas succomber. Il faut qu'en faisant tout cela, les pensées antinaturelles auxquelles on s'est voué restent dominantes et continuent leur cours impassible dans notre pauvre tête. Il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve une réalité.
Enfin, Pierre Curie a d'un poète, d'un artiste, la sensibilité, l'imagination, les découragements, les angoisses. Dans son journal, en 1881, il écrivait
« Que serai-je plus tard ? Bien rarement, je suis tout à moi. Ordinairement, une portion de mon être est endormie. Il me semble que chaque jour, mon esprit s'alourdit. Avant, je me lançais dans des divagations scientifiques ou autres. Aujourd'hui, j'effleure à peine les sujets et je ne me laisse plus absorber par eux. Et tant de choses que j'ai à faire. Mon pauvre esprit, es-tu donc si faible que tu ne puisses réagir sur mon corps ? Oh, mes pensées, que ne pouvez-vous remuer mon pauvre esprit ? Vous êtes donc bien peu de choses. Et vous, orgueil, ambition, ne pourriez-vous au moins me pousser ? Et allez-vous me laisser vivre ainsi ? C'est en mon imagination que j'aurai le plus confiance pour me tirer de l'ornière. Elle séduira peut-être mon esprit et l'entraînera avec elle. Mais j'ai bien peur qu'elle ne soit morte. »
Scientifique, artiste, poète, Pierre a donc toutes les qualités qu'un homme puisse rassembler. Dans un monde sans pesanteur, ces qualités suffiraient à valoir à un homme tous les succès féminins. Mais l'austérité et l'esprit quasi sacerdotal avec lequel Pierre s'engage dans ce qu'il sait être sa mission lui coupe le charme de cette compagnie féminine qui bien souvent est pour l'artiste comme pour le savant une source d'inspiration et de ressourcement sans pareil. Dans ces moments d'intense activité intellectuelle et d'intense enfouissement scientifique, Pierre se surprend parfois à sombrer dans la mélancolie. Dans ces moments même où il fait quelques-unes de ses découvertes les plus importantes, il écrit dans son journal ces lignes étonnantes qui sonnent comme un appel en même temps qu'elles témoignent d'une méditation sans faille sur ce qui constitue en propre la condition humaine dans tout ce qu'elle a à la fois de dramatique et de merveilleux.
La femme, bien plus que nous, aime la vie pour vivre. Les femmes de génie sont rares. Aussi, lorsque poussées par quelque amour mystique, nous voulons entrer dans quelque voie antinaturelle lorsque nous donnons toutes nos pensées à quelque œuvre qui nous éloigne de l'humanité, qui nous touche, nous avons à lutter avec les femmes. La mère veut avant tout l'amour de son enfant, dût-il en rester imbécile. La maîtresse veut aussi posséder son amant et trouverait tout naturel que l'on sacrifiât le plus beau génie du monde pour une heure d'amour. La lutte, presque toujours, est inégale, car les femmes ont pour elles la bonne cause. C'est au nom de la vie et de la nature qu'elles essaient de nous ramener.
Les années ont passé. Pierre Curie, voué corps et âme à la recherche scientifique, n'a épousé aucune des jeunes filles insignifiantes ou gentilles qu'il lui a été donné de rencontrer. Il a 35 ans. Il n'aime personne, mais la vie a ceci d'étonnant, qu'elle offre souvent à ceux qui doutent l'occasion de reprendre espoir au moment même où tout espoir semble perdu. Dans cette année 1893, le brillant savant Pierre Curie n'expérimente pas autre chose. Il ne sait pas encore qu'il s'apprête à rencontrer celle qui va bouleverser sa vie et illuminer son existence.
Depuis quelque temps, une jeune étudiante d'origine polonaise fréquente les bancs de l'université de Paris. Après quelques mois passés auprès de sa sœur et de son beau-frère à la Villette, elle s'est installée au quartier latin dans l'intention de se rapprocher de son lieu d'études.
Tout ce que je voyais et apprenais de nouveau m'enchantait. C'est comme un monde nouveau qui m'était ouvert, le monde de la science, qu'il m'était enfin permis de connaître en toute liberté.
Elle suit à la Sorbonne les cours de Brillouin, Painlevé, Lippmann et Dappel. Son ambition ? Acquérir des connaissances scientifiques égales à celles d'un homme. Elle atteint son but en 1893 quand elle obtient son diplôme de physique. Marie est admise au laboratoire de Lippmann et l'année suivante, elle se consacre à l'étude des mathématiques. Cette jeune femme, au regard lumineux et étincelant, aux cheveux blonds cendrés, frappe par son intelligence autant que par sa beauté. Elle s'appelle Maria Slodowska. Elle a décrit cette première rencontre avec celui qui allait devenir l'homme de sa vie.
Quand j'entrais, Pierre Curie se tenait dans l'embrasure d'une porte-fenêtre donnant sur un balcon. Il me parut très jeune, bien qu'il fût âgé alors de 35 ans. J'étais frappée par l'expression de son regard clair et par une légère apparence d'abandon dans sa haute stature. Sa parole un peu lente et réfléchie, sa simplicité, son sourire à la fois grave et jeune, inspiraient confiance. Une conversation s'engagea entre nous, bientôt amicale. Elle avait pour objet des questions de science sur lesquelles j'étais heureuse de demander son avis.
Nous sommes au début de l'année 1894. Un Polonais, M. Kowalski, professeur de physique à l'université de Fribourg, séjourne en France avec sa femme, dont Marie a fait la connaissance en Pologne. Dès son arrivée, il s'est enquis de Marie, lui a demandé amicalement de ses nouvelles et l'étudiante lui a confié ses soucis du moment. La Société pour l'encouragement de l'industrie nationale lui a commandé une étude sur les propriétés magnétiques de divers aciers. Elle a commencé ses recherches au laboratoire du professeur Lippmann, mais il lui faut analyser des minerais, grouper des échantillons de métaux. Ceci réclame une installation encombrante, trop encombrante pour un laboratoire déjà surchargé. Et Marie ne sait que faire, dans quel bâtiment monter ses expériences. « J'ai une idée, lui dit Joseph Kowalski après quelques instants de réflexion. Je connais un savant de grande valeur qui travaille à l'école de physique et de chimie, rue Lomont. Peut-être aurait-il un local disponible. En tout cas, il vous donnera un conseil. Venez prendre le thé chez nous demain soir après le dîner. Je demanderai à ce jeune homme de venir. Vous devez le connaître de nom. Il s'appelle Pierre Curie. » Au cours de cette calme soirée, passée dans la chambre silencieuse de la pension de famille habitée par le jeune couple, une sympathie immédiate rapproche le physicien français de la physicienne polonaise. Pierre Curie a un charme très particulier, fait de gravité et d'une nonchalante douceur. Il est grand, ses vêtements d'une coupe ample, démodés, flottent un peu autour de son corps et pourtant lui vont bien. Sans s'en douter, il a beaucoup d'élégance naturelle. Ses mains sont longues, sensibles, son visage régulier, peu mobile, allongé par une barbe rêche et très beau à cause des yeux paisibles, du regard incomparable. Un regard profond, serein, détaché de toute chose. Bien que cet homme garde une constante réserve et que jamais il n'élève la voix, il est impossible de ne pas remarquer son expression d'intelligence et de distinction rare. Dans une civilisation où la supériorité intellectuelle ne s'allie pas toujours à la valeur morale, Pierre Curie est un échantillon presque unique d'humanité, c'est un esprit puissant et c'est un esprit noble.
L'attirance qu'il éprouve dès le premier instant pour la jeune étrangère peu bavarde se double d'intense curiosité. Cette mademoiselle Slodowska est vraiment une personne assez étonnante. Ainsi, elle est polonaise et elle est venue de Varsovie afin de suivre des cours à la Sorbonne. Elle a été reçue première l'an dernier à la licence de physique. Elle va passer dans quelques mois sa licence de mathématiques? Et si entre ses yeux de cendre se creuse cette petite ride préoccupée, c'est parce qu'elle ne sait où installer ses appareils pour l'étude du magnétisme des aciers? Le poète en même temps que le physicien, a été subjugué par Marie Slodowska. Avec une douce ténacité, Pierre Curie cherche à se rapprocher de la jeune fille. Il l'a revue deux ou trois fois aux séances de la Société de physique, où elle écoutait les communications des savants sur des recherches nouvelles. Il lui a envoyé, en hommage, les tirages à part de sa dernière publication. Sur la symétrie dans les phénomènes physiques, symétrie d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et à la première page, il a inscrit
« À Mademoiselle Slodowska, avec le respect et l'amitié de l'auteur Pierre Curie. »
Il l'a aperçu au laboratoire de Lippmann, dans son sarrau de toile, penchée, silencieuse, sur ses appareils. Et puis, il a demandé à lui rendre visite. Marie lui a donné son adresse, 11 rue des Feuillantines. Amicale, réservée, elle l'a reçue dans sa petite chambre, et Pierre, le cœur serré par tant de pauvreté, a goûté cependant au plus profond de lui-même l'accord subtil du personnage et du décor. Quelques mois se passent. L'amitié se resserre, l'intimité grandit, à mesure qu'augmente l'estime et l'admiration réciproque, la confiance. Pierre a reparlé plusieurs fois de l'avenir. Il a demandé à Marie d'être sa femme. Mais la démarche n'a pas été heureuse. Épouser un Français, quitter à jamais sa famille, renoncer à son activité patriotique, délaisser la Pologne, ces choses apparaissent à Mademoiselle Slodowska comme autant de trahisons affreuses. Elle ne peut pas. Elle ne doit pas. Elle a brillamment passé son examen et maintenant il faut qu'elle retourne à Varsovie. Pour l'été en tout cas. Et peut-être pour toujours. Laissant le jeune savant découragé, lui offrant une amitié dont il ne se contente plus, elle prend le train sans rien promettre. Le 10 août 1894, Pierre Curie écrit
« Rien ne pouvait me faire plus de plaisir que d'avoir de vos nouvelles. La perspective de rester 2 mois sans entendre parler de vous m'était extrêmement désagréable. C'est vous dire que votre petit mot a été le bienvenu. J'espère que vous faites provision de bon air et que vous nous reviendrez au mois d'octobre. Pour moi, je crois que je ne voyagerai pas. Je reste à la campagne et je suis toute la journée devant ma fenêtre ouverte ou dans le jardin. Nous nous sommes promis, n'est-il pas vrai, d'avoir l'un pour l'autre au moins une grande amitié, pourvu que vous ne changiez pas d'avis, car il n'y a pas de promesses qui tiennent. Ce sont des choses qui ne se commandent pas. Ce serait cependant une belle chose, laquelle je n'ose croire que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisé dans nos rêves. Votre rêve patriotique, notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. De tous ces rêves-là, le dernier seul est, je crois, légitime. Je veux dire par là que nous sommes impuissants à changer l'état social. Et s'il n'en était pas ainsi, nous ne saurions que faire, et en agissant dans un sens quelconque, nous ne serions jamais sûrs de ne pas faire plus de mal que de bien en retardant quelque évolution inévitable. Au point de vue scientifique, au contraire, nous pouvons prétendre faire quelque chose. Le terrain est ici plus solide, et toute découverte, si petite qu'elle soit, reste acquise. Voyez comme tout s'enchaîne. Il est convenu que nous serons de grands amis, mais si dans un an vous quittez la France, ce sera vraiment une amitié trop platonique que celle de deux êtres qui ne se verront plus. Ne vaudrait-il pas mieux que vous restiez avec moi? Je sais que cette question vous fâche, et je ne veux plus vous en parler. Puis je me sens tellement indigne de vous à tous les points de vue. J'avais pensé vous demander la permission de vous rencontrer, par hasard, à Fribourg. Mais vous y resterez, n'est-il pas vrai, un jour seulement? Et ce jour-là, vous appartiendrez nécessairement à nos amis Kowalski. Croyez-moi votre tout dévoué Pierre Curie.
4 mois. 4 mois d'une interminable attente. Telle est la durée que devra endurer Pierre avant de voir Marie confirmer son choix. Pour Marie, c'est aussi l'effet d'un choix déchirant. Les retrouvailles familiales ont été plus émouvantes que jamais. Le retour à la terre polonaise, plus nostalgique que jamais. mais l'appel de la science a été le plus fort. De la science, et surtout de Pierre, de cet homme qu'en secret, elle commence à aimer. Voici octobre. Le cœur de Pierre est gonflé de bonheur. Marie, selon sa promesse, est revenue à Paris. On la revoit au cours de la Sorbonne, au laboratoire de Lippmann. Mais cette année, sa dernière année en France, croit-elle, elle n'habite plus au quartier latin. Sa sœur, Bronia, lui a cédé une chambre attenante au cabinet de consultation qu'elle a ouvert, 39 rue de Châteaudun. C'est dans ce logement sombre, un peu triste, que Pierre reprend son tendre plaidoyer. 10 mois s'écouleront encore, avant que la Polonaise butée accepte l'idée du mariage. En vrai intellectuel slave, Marie est encombrée de théories sur l'existence et sur ses devoirs. Certaines de ses théories sont généreuses et belles, d'autres ne sont que puériles. Surtout, et Pierre l'a compris depuis longtemps, ce ne sont pas elles qui font de Marie un être supérieur. Le savant fait bon marché des principes que Marie partage avec quelques milliers de ses compatriotes cultivés. Ce qui le retient et le fascine, c'est son dévouement total au travail. C'est son génie qu'il pressent. C'est aussi son courage et sa noblesse. Cette fille gracieuse a le caractère et les dons d'un grand homme. À force de persévérance, Pierre a fini par faire entendre raison à Marie et l'a décidé à ouvrir enfin son cœur. Le mariage aura finalement lieu. La date en est fixée au 26 juillet 1895. Enfin, si l'on peut à proprement parler de mariage, pour cette union qui, jusque dans ses détails, ne ressemble à aucun autre hyménée. Il n'y aura pas de robe blanche, pas d'anneau d'or, pas de repas de noces, pas non plus de cérémonie religieuse. Pierre est libre penseur, et Marie, depuis longtemps, a cessé d'être pratiquante. Et point de notaire, puisque les fiancés ne possèdent rien au monde. Rien que 2 bicyclettes étincelantes achetées la veille, avec le cadeau en espèces que leur a envoyé un cousin, et avec lequel ils vont, pendant l'été, parcourir la campagne. Pierre aime la campagne avec passion. Et sans doute les longues marches silencieuses sont-elles nécessaires à son génie ? Favorisent-elles de leur rythme égal ses méditations de savant ? Il ne peut rester immobile, dehors, dans un jardin. Il ne sait pas se reposer. Il n'aime pas davantage les excursions classiques aux itinéraires prévus. Et il n'a aucune notion du temps. Pourquoi marcherait-on le jour plutôt que la nuit ? Pourquoi les heures de repas seraient-elles immuablement fixes ? Depuis son enfance, Pierre a accoutumé de partir tout d'un coup, tantôt à l'aube, tantôt au crépuscule, sans savoir s'il reviendra dans 3 jours ou dans 1 heure. De ses randonnées de jadis avec son frère, il a conservé des souvenirs admirables.
« Oh, quel bon temps j'ai passé là, dans cette solitude bienfaisante, loin des 1000 petites choses agaçantes qui, à Paris, me mettent au supplice. Non, je ne regrette pas mes nuits passées dans les bois et mes journées qui coulaient toutes seules. Si j'avais le temps, je me laisserais bien aller à raconter toutes les rêvasseries que j'ai faites. Je voudrais aussi décrire ma délicieuse vallée, tout embaumée de plantes aromatiques, le beau fouillis si frais et si humide qui traversait la Bièvre, le palais des fées aux colonnades de houblon, les collines rocailleuses et rouges de bruyère sur lesquelles on était si bien. Ah oui, je me souviendrai toujours avec reconnaissance des bois de la Minière. C'est de tous les coins que j'ai vus, celui que j'ai le plus aimé, où j'ai été le plus heureux. Je partais souvent le soir, et je remontais la vallée. Je revenais avec 20 idées en tête.
Les vagabondages de l'été 1895, ces vagabondages de noces, sont bien plus doux encore. L'amour les embellit et les exalte. Au prix de quelques francs, qui paient les chambres dans les villages, et de milliers de coups de pédale, les époux s'octroient, pendant des nuits et des jours enchantés, le luxe de la solitude à deux. Vivre ensemble, constamment, ne jamais se quitter. Tel est le rêve qui, désormais, anime Pierre comme Marie. Un rêve qui n'en est pas seulement un, mais prend bientôt la forme de réalités bien tangibles et concrètes. Celle d'un appartement, d'abord, situé 24 rue de la Glacière, dans lequel le jeune couple s'installe début octobre 1895. Celle d'un enfant, ensuite, que Marie attend et met au monde le 12 septembre 1897. Marie Curie à M. Slodowski, 10 novembre 1897.
Je nourris toujours ma petite reine, mais ces temps-ci nous avons craint sérieusement que je ne puisse pas continuer. Pendant 3 semaines, le poids de l'enfant avait brusquement diminué. Irène avait mauvaise mine, était abattue et sans vie. Depuis quelques jours, cela va mieux. Si l'enfant augmente de poids normalement, je continuerai à la nourrir. Sinon, je prendrai une nourrice, malgré le chagrin que cela me fera et malgré la dépense. Pour rien au monde, je ne voudrais nuire au développement de mon enfant. Il fait encore très beau, chaud, ensoleillé. Irène va tous les jours se promener avec moi ou avec la servante. Je la baigne dans un petit baquet à lessive.
Deux licences, le concours d'agrégation, une étude sur l'aimantation des aciers trempés, tel est, à la fin de 1897, le bilan de l'activité de Marie Curie, qui, à peine remise de ses couches, retourne au travail. Dans ce travail de titan, Pierre l'a secondée sans relâche. Dans la suite de la carrière de Marie, Pierre va jouer un rôle encore plus déterminant. Courageusement, mais aussi avec une forme d'inconscience qui marque tout à la fois une sorte de naïveté devant les barrières sociales et universitaires de l'époque, en même temps qu'un désir insatiable poussé jusqu'à l'abnégation de soi de servir la science, Marie s'engage dans la voie du doctorat. Ici, quelques semaines d'indécision, il s'agit de choisir un thème de recherche qui fournisse une matière féconde, originale, Marie, passant en revue les travaux récents de physique, cherche un sujet de thèse. Dans ce débat capital, les avis de Pierre comptent beaucoup. Il est le chef de laboratoire de Marie, son patron. Et c'est un physicien plus âgé et plus expérimenté qu'elle. À côté de son époux, elle se regarde un peu comme une apprentie. Et cependant, le caractère de la Polonaise, sa nature intime, ont dû grandement influer sur le choix de ce sujet. Marie porte en elle, depuis l'enfance, la curiosité et l'audace des explorateurs. C'est cet instinct qui l'a poussée jadis à quitter Varsovie pour découvrir Paris et la Sorbonne. Marie, feuilletant les comptes rendus des dernières études expérimentales, s'arrête aux travaux du physicien français Henri Becquerel de l'Académie des sciences, publié l'année précédente. Pierre et elle les connaissaient déjà. Elle les relit, les étudie avec un soin coutumier.
Après la découverte des rayons X par Röntgen, Henri Poincaré avait eu l'idée de rechercher si des rayons semblables aux rayons X n'étaient pas émis par les corps fluorescents sous l'action de la lumière. Attiré par le même problème, Henri Becquerel avait examiné les sels d'un métal rare, l'urane. Mais au lieu de trouver le phénomène prévu, il en avait observé un autre, tout différent, incompréhensible. Les sels d'urane émettaient spontanément, sans action préalable de la lumière, des rayons d'une nature inconnue. Un composé d'urane, placé sur une plaque photographique entourée de papier noir, impressionnait celle-ci à travers le papier. Et, comme les rayons X, ces étonnants rayons uraniques déchargeaient un électroscope en rendant conducteur l'air ambiant. Henri Becquerel s'était assuré que ces propriétés ne dépendaient pas d'une insolation préliminaire et qu'elles persistaient lorsque le composé d'urane était maintenu longuement dans l'obscurité. Il avait découvert le phénomène auquel Marie Curie devait donner plus tard le nom de radioactivité. Mais l'origine de ce rayonnement demeurait une énigme. Ces rayons de Becquerel intriguent les Curie au plus haut point. D'où peuvent provenir l'énergie, minime il est vrai, que dégagent constamment les composés d'urane sous forme de radiation. Et ces radiations, quelle est donc leur nature? Voilà un excellent thème de recherche, une thèse de doctorat. Le sujet tente Marie, d'autant plus que le champ d'exploration est vierge. Les travaux de Becquerel sont récents, et, dans les laboratoires d'Europe, personne à sa connaissance n'a encore approfondi l'étude des rayons uraniques. Comme point de départ, et pour toute bibliographie, il existe les communications présentées par Henri Becquerel à l'Académie des sciences au cours de l'année 1896. Cela va être passionnant de se lancer à l'aventure dans un domaine inconnu.
ne reste plus qu'à trouver un local où Marie puisse monter ses expériences. Et ici commencent les difficultés. Plusieurs démarches de Pierre auprès du directeur de l'école physique aboutissent à un assez médiocre résultat. La libre disposition est accordée à Marie d'un atelier vitré situé au rez-de-chaussée des bâtiments de l'école. C'est une pièce encombrée, suintante de vapeur, qui sert de magasin et de salle de machine, aménagement technique rudimentaire, confort néant. La jeune femme ne se décourage pas. Privée d'une installation électrique adéquate et de tout ce qui constitue le matériel de départ des recherches scientifiques, elle trouve le moyen de faire fonctionner ces appareils dans ce réduit.
Ce n'est pas facile. Les instruments de précision ont des ennemis sournois. L'humidité, les changements de température. Le climat de ce petit atelier, fatal aux électromètres sensibles, n'est pas excellent non plus pour la santé de Marie. Mais ceci, n'est-ce pas, n'a aucune importance. Lorsqu'elle a trop froid, la physicienne se venge en notant dans son carnet de travail les degrés centigrades qu'indique le thermomètre. Le 6 février 1898, nous trouvons ainsi, parmi les formules et les chiffres, température dans cylindre 6 degrés 25. 6 degrés, c'est peu vraiment. Marie, pour marquer son blâme, a ajouté 10 petits points d'exclamation. Le premier soin de la candidate au doctorat est de mesurer le pouvoir d'ionisation des rayons de l'uranium, c'est-à-dire leur pouvoir de rendre l'air conducteur de l'électricité et de décharger un électroscope. L'excellente méthode qu'elle emploie, méthode qui sera la clé du succès de ses expériences, a été jadis inventée pour l'étude d'autres phénomènes par deux physiciens qu'elle connaît bien, Pierre et Jacques Curie. L'installation utilisée par Marie se compose d'une chambre d'ionisation, d'un électromètre Curie et d'un quartz piézoélectrique. Au bout de quelques semaines, premier résultat. Marie acquiert la certitude que l'intensité de ce rayonnement surprenant est proportionnelle à la quantité d'uranium contenue dans les échantillons examinés, et que le rayonnement, qui peut être mesuré avec précision, n'est influencé ni par l'état des combinaisons chimiques de l'uranium, ni par les circonstances extérieures, telles que l'éclairement ou la température.
Tournant et retournant le mystère dans sa tête braquée vers la vérité, Marie pressent et bientôt peut affirmer que l'incompréhensible rayonnement est une propriété atomique. Et elle se pose une question, bien que le phénomène n'ait été observé qu'avec l'uranium, rien ne prouve que l'uranium soit le seul élément chimique capable de le provoquer. Pourquoi d'autres corps ne posséderaient-ils pas le même pouvoir ? C'est peut-être par hasard que les rayons ont été découverts dans l'uranium, auquel ils restent liés dans l'esprit des physiciens. Il faut maintenant les chercher ailleurs. Aussitôt pensé, aussitôt fait, abandonnant l'étude de l'uranium, Marie entreprend l'examen de tous les corps chimiques connus. Et le résultat ne se fait pas attendre. Les composés d'un autre corps, le thorium, émettent eux aussi des rayons spontanés semblables à ceux de l'uranium et d'une intensité analogue. La jeune femme avait vu clair, le phénomène n'est nullement l'apanage du seul uranium et il devient donc nécessaire de lui donner une dénomination distincte. Madame Curie propose le nom de radioactivité. Les corps, tels que l'uranium et le thorium, doués de cette radiance particulière, s'appelleront des radioéléments. La radioactivité intrigue tellement la physicienne qu'elle ne se lasse pas d'étudier, toujours par la même méthode, les matières les plus diverses. L'idée de Marie est simple, simple comme les trouvailles d'Eugénie. Au palier de travail où Madame Curie se trouve, des centaines de chercheurs seraient restés en panne pour des mois, peut-être des années. Ayant passé en revue les corps chimiques connus et découvert, comme l'a fait Marie, le rayonnement du thorium, ils eussent continué de se demander en vain d'où provenait la radioactivité mystérieuse. Marie, elle aussi, s'interroge et s'étonne, mais sa surprise se traduit en acte fécond. Elle a épuisé les possibilités évidentes, à présent, elle se tourne vers l'insondé, l'inconnu. Elle sait d'avance ce que va lui apprendre l'examen des minéraux, ou plutôt elle croit le savoir. Les échantillons qui ne recèlent ni uranium ni thorium se révéleront totalement inactifs. Les autres, contenant de l'uranium ou du thorium, seront radioactifs. Les faits confirment ses prévisions. Rejetant les minéraux inactifs, Marie s'attache aux autres et mesure leur radioactivité. Ici, coup de théâtre, cette radioactivité se révèle beaucoup plus forte que celle que l'on pouvait normalement prévoir d'après la quantité d'uranium ou de thorium contenue dans les produits examinés. Ce doit être une erreur d'expérience, pense la jeune femme, car devant un phénomène inattendu, le doute est la première réaction du savant. Marie recommence ses mesures, sans s'émouvoir avec les mêmes produits. Elle les recommence 10 fois, 20 fois. Et il lui faut bien se rendre à l'évidence. Les quantités d'uranium et de thorium qui se trouvent dans les minéraux ne suffisent nullement à justifier l'intensité exceptionnelle du rayonnement qu'elle observe. D'où vient cette radioactivité excessive, anormale? Une seule explication possible: les minéraux doivent contenir en petite quantité une substance beaucoup plus fortement radioactive que l'uranium et le thorium. Mais quelle substance, puisque dans ses expériences précédentes, Marie a déjà examiné tous les éléments chimiques connus? La savante répond à la question avec la sûreté et la magnifique audace des très grands esprits. Elle émet une hypothèse hardie. Les minéraux recèlent certainement une matière radioactive qui est en même temps un élément chimique inconnu à ce jour, un corps nouveau. Un corps nouveau? Hypothèse fascinante, tentante, mais hypothèse. Jusqu'ici, la substance puissamment radioactive n'existe que dans l'imagination de Marie et dans celle de Pierre, mais elle y existe bien. Marie, un jour, dira à sa sœur Bronia d'une voix contenue ardente:
« Tu sais, le rayonnement que je ne pouvais m'expliquer vient d'un élément chimique inconnu. L'élément est là, il ne reste qu'à le trouver. Nous en sommes sûrs. Des physiciens auxquels nous en avons parlé croient à une erreur d'expérience et nous conseillent d'être prudents, mais je suis persuadée que je ne me trompe pas. »
Pierre Curie a suivi avec un intérêt passionné les progrès rapides des expériences de sa femme. Sans se mêler directement au travail, il a fréquemment aidé Marie de ses remarques, de ses conseils. Devant le caractère stupéfiant des résultats obtenus, il décide d'abandonner momentanément son étude sur les cristaux et de joindre ses efforts à ceux de Marie pour saisir la substance nouvelle. Les forces du combat sont maintenant doublées. Dans le petit atelier humide de la rue Laumont, 2 cerveaux, 4 mains cherchent le corps inconnu. Et dorénavant, dans l'œuvre des Curie, il sera impossible de distinguer la part de chacun. Ils écriront « Nous avons trouvé, nous avons observé ». Et, contraints quelquefois par les faits de distinguer leur rôle, ils emploieront cette formule émouvante:
« Certains minéraux contenant de l'uranium et du thorium, pêche blanche, chalcolite, uranite, sont très actifs au point de vue de l'émission des rayons de Becquerel. Dans un travail antérieur, l'un de nous a montré que leur activité est même plus grande que celle de l'uranium et du thorium et a émis l'opinion que cet effet était dû à quelque autre substance très active renfermée en petite quantité dans ces minéraux. »
Les Curie recherchent la substance très active dans un minerai d'urane, la pêche blonde. À l'état brut, la pêche blonde s'est révélée 4 fois plus radioactive que l'oxyde d'urane pur qu'elle contient. Mais la composition de ce minerai est connue d'une manière assez précise. Il faut que l'élément nouveau s'y trouve en quantité bien faible pour avoir échappé jusqu'ici à l'attention des savants, à la rigueur des analyses chimiques. La radioactivité se concentre principalement dans 2 fractions chimiques de la pêche blinde. Pour M. et Mme Curie, c'est le signe de l'existence de 2 corps nouveaux distincts. Dès juillet 1898, ils sont en mesure d'annoncer la découverte d'une de ces 2 substances.
« Il faut que tu lui trouves un nom !»
Celle qui fut Mademoiselle Slodowska réfléchit un moment en silence. Puis, son cœur s'élançant vers sa patrie rayée de la carte du monde, elle songe, vaguement, que l'événement scientifique sera publié en Russie, en Allemagne, en Autriche, chez les oppresseurs. Et elle répond timidement:
« Et si nous l'appelions le polonium ?»
Dans les comptes rendus de juillet 1898, on lit:
« Nous croyons que la substance que nous avons retirée de la pêche blonde contient un métal non encore signalé, voisin du bismuth par ses propriétés analytiques. Si l'existence de ce nouveau métal se confirme, nous proposons de l'appeler polonium, du nom du pays d'origine de l'un de nous. »
6 mois plus tard, un nouveau pas décisif est franchi. Dans une note destinée à l'Académie des sciences, publié dans les comptes rendus de la séance du 20 décembre 1898, Pierre et Marie Curie, secondés par un de leurs collaborateurs, M. Bémont, annoncent l'existence dans la pêche blande d'un deuxième élément chimique radioactif.
Les diverses raisons que nous venons d'énumérer nous portent à croire que la nouvelle substance radioactive renferme un élément nouveau auquel nous proposons de donner le nom de radium. La nouvelle substance radioactive renferme certainement une très grande proportion de barium. Malgré cela, la radioactivité est considérable. La radioactivité du radium doit donc être énorme.
L'annonce faite et la conjecture établie, le plus dur reste à faire. Mettre en évidence l'élément annoncé. Montrer concrètement que le radium existe. Tâche d'autant plus urgente, mais aussi d'autant plus difficile, que personne, jusqu'à présent, n'a vu de radium. Personne ne connaît le poids atomique du radium. Et les chimistes, fidèles à leurs principes, concluent « Pas de poids atomique, pas de radium. Montrez-nous du radium et nous vous croirons. » Pour montrer du polonium et du radium aux sceptiques, pour prouver à l'univers l'existence de leurs enfants, et pour achever de s'en convaincre eux-mêmes, M. et Mme Curie devront travailler pendant 4 ans. Le but est d'obtenir du radium et du polonium pur. Dans les produits les plus fortement radioactifs que les savants aient préparés, ces deux substances ne figurent qu'à l'état de traces insaisissables. Pour isoler les nouveaux métaux, il va falloir traiter de très grosses quantités de matières premières. Ici, trois questions angoissantes se posent. Comment se procurer une quantité suffisante de minerais ? Dans quel local effectuer le traitement ? Avec quel argent payer les frais inévitables du travail ? La pêche blande, où se cachent polonium et radium, est un minerai précieux que l'on traite aux mines de Saint-Joachimsthal, en Bohême, pour en retirer les sels d'urane utilisés dans l'industrie du verre. Des tonnes de pêche blande coûteraient cher, beaucoup trop cher pour le ménage Curie. L'ingéniosité va suppléer à la fortune. D'après les prévisions des deux savants, l'extraction de l'uranium devrait laisser intactes les traces de polonium et de radium que contient le minerai. Rien ne s'oppose donc à ce que l'on retrouve ces traces dans les résidus. Or, si la pêche blande brute est coûteuse, ces résidus, après traitement, n'ont qu'une valeur minime. En demandant à un collègue autrichien une recommandation pour les directeurs de la mine de Saint-Joachimsthal, il ne serait peut-être pas impossible d'obtenir, à des conditions raisonnables, une quantité importante de ces résidus. C'est très simple. Encore fallait-il y penser. Encore faut-il disposer d'un local pour travailler. Après de vaines démarches, Pierre et Marie reviennent bredouilles à leur point de départ, c'est-à-dire à l'école de physique où enseigne Pierre, au petit atelier qui abrita les premiers essais de Marie. L'atelier donne sur une cour, et de l'autre côté de la cour, il y a une baraque de bois, un hangar abandonné dont le toit vitré est en si triste état qu'il laisse passer la pluie. Jadis, la faculté de médecine utilisait ce réduit comme salle de dissection. Mais depuis bien longtemps, l'endroit n'a même plus été jugé digne d'héberger des cadavres. Pas de plancher. Une vague couche de bitume couvre le sol. Comme mobilier, quelques tables de cuisine vétustes, un tableau noir qui a échoué là on ne sait pourquoi, et un vieux poêle de fonte aux tuyaux rouillés. Un ouvrier ne travaillerait pas volontiers en un pareil lieu. Marie et Pierre s'y résignent pourtant. Le hangar a un avantage. Il est si peu tentant, si misérable, que personne ne songe à leur en refuser la libre disposition. Le hangar de la rue Lomont est un modèle d'inconfort. L'été, il est, à cause du toit vitré, brûlant comme une serre. En hiver, on ne sait s'il faut souhaiter le gel ou la pluie. S'il pleut, l'eau tombe goutte à goutte, avec un bruit doux, agaçant, sur le sol ou sur les tables de travail, à des endroits que les physiciens repèrent pour n'y jamais placer un appareil. S'il gèle, on gèle. Il n'y a pas de remède. Le poêle, même bourré à blanc, est une déception complète. En s'en approchant à le toucher, l'on reçoit un peu de chaleur. Mais dès que l'on s'éloigne d'un pas, l'on rentre dans la zone de glace. Il faut bien d'ailleurs que Marie et Pierre s'accoutument aux cruautés de la température extérieure. L'installation technique inexistante ne comporte pas de hotte pour appeler au dehors les gaz nuisibles et la plupart des traitements doivent être faits dans la cour, en plein air. Qu'une averse survienne et les physiciens retransportent en hâte leurs appareils dans leur hangar. Afin de continuer leur travail sans être suffoqués, ils établissent des courants d'air en ouvrant la porte et les fenêtres. C'est dans ces conditions que M. et Mme Curie travailleront de 1898 à 1902.
Au cours de la première année, ils s'occupent ensemble du travail de séparation chimique du radium et du polonium et ils étudient le rayonnement des produits actifs qu'ils obtiennent. Bientôt, ils jugent plus efficace de séparer leurs efforts. Pierre Curie tente de préciser les propriétés du radium, de faire connaissance avec le nouveau métal. Marie Curie poursuit les traitements qui permettront d'obtenir des sels de radium pur. Dans cette division du travail, Marie a choisi le métier d'homme. Elle accomplit une tâche de manœuvre. Sous le hangar, son époux s'absorbe dans des expériences délicates. Dans la cour, vêtu de son vieux sarrau souillé de poussière et de taches d'acide, les cheveux au vent, entouré de fumée qui lui pique les yeux et la gorge, Marie est, à elle seule, une sorte d'usine.
« J'ai été amenée à traiter jusqu'à 20 kg de matière à la fois, écrit-elle, ce qui avait pour effet de remplir le hangar de grands vases pleins de précipités et de liquides. C'est un travail exténuant que de transporter les récipients, de transvaser les liquides et de remuer pendant des heures la matière en ébullition dans une bassine de fonte. »
Mais le radium veut garder son mystère, il ne met aucune bonne volonté à se faire connaître des humains. Où est le temps où Marie naïvement prévoyait 1% de radium dans les résidus de pêche blande? Le rayonnement de la substance nouvelle est si puissant qu'une quantité infime de radium disséminée dans le minerai est la source de phénomènes frappants que l'on peut observer et mesurer aisément. Le difficile, l'impossible, c'est d'isoler la quantité minuscule, de la séparer de la gangue à laquelle elle est intimement mêlée. Les journées de travail deviennent des mois, deviennent des années. Pierre et Marie ne perdent pas courage. Cette matière qui leur résiste les fascine. Unis par leur tendresse et par leurs passions intellectuelles, ils ont dans une baraque de planches l'existence antinaturelle pour laquelle ils ont été créés, elle comme lui.
Nous étions à cette époque entièrement absorbés par le nouveau domaine qui s'ouvrait devant nous grâce à une découverte inespérée. Malgré les difficultés de nos conditions de travail, nous nous sentions très heureux. Nos journées s'écoulaient au laboratoire. Dans notre hangar si pauvre, régnait une grande tranquillité. Parfois, en surveillant quelques opérations, nous nous promenions de long en large, causant de travail présent et futur. Quand nous avions froid, une tasse de thé chaud, prise auprès du poêle, nous réconfortait. Nous vivions dans une préoccupation unique, comme dans un rêve. Nous ne voyions que peu de personnes au laboratoire. Parmi les physiciens et les chimistes, l'un ou l'autre venait de temps en temps, soit pour voir nos expériences, soit pour demander quelques conseils à Pierre Curie, dont la compétence dans plusieurs branches de la physique était bien connue. C'était alors des conversations devant le tableau noir, de celles dont on conserve un excellent souvenir parce qu'elles agissent comme un élément stimulant de l'intérêt scientifique et de l'ardeur au travail, sans interrompre le cours des réflexions et sans troubler cette atmosphère de paix et de recueillement qui est la véritable atmosphère d'un laboratoire.
Marie a continué de traiter, kilogramme par kilogramme, les tonnes de résidus de pêche blande qui lui ont été envoyées en plusieurs fois. Avec sa terrible patience, elle a été chaque jour pendant 4 années à la fois un savant, un ouvrier spécialisé, un ingénieur et un homme de peine. C'est grâce à son cerveau et à ses muscles que des produits de plus en plus concentrés, de plus en plus riches en radium, ont pris place sur les vieilles tables du hangar. Marie Curie approche du but.
En 1902, 45 mois après le jour où les Curie annonçaient l'existence probable du radium, Marie remporte enfin la victoire de cette guerre d'usure. Elle réussit à préparer 1 décigramme de radium pur et elle fait une première détermination du poids atomique de la substance nouvelle qui est de 225. Les chimistes incrédules, il en restait quelques-uns, n'ont plus qu'à s'incliner devant les faits, devant la surhumaine obstination d'une femme. Le radium existe officiellement. Le nom de Curie est maintenant un grand nom. Les époux sont plus riches en argent, moins riches en minutes heureuses. Marie, surtout, a perdu ses mouvements d'ardeur et sa joie. Elle n'est pas aussi entièrement absorbée que Pierre par les pensées scientifiques. Sa sensibilité, ses nerfs sont affectés par les événements de chaque jour, et ils réagissent mal. Le vacarme qui fête le radium et le prix Nobel l'irrite, sans la distraire un instant du souci qui envenime sa vie, la maladie de Pierre. Pierre Curie, à Georges Gouy, le 31 janvier 1905.
Mes rhumatismes me laissent assez tranquille en ce moment, mais j'ai eu une crise violente cet été et j'ai dû renoncer à aller en Suède. Nous sommes, comme vous le voyez, tout ce qu'il y a de moins en règle avec l'Académie suédoise. À la vérité, je n'arrive à me maintenir en état qu'en évitant toute fatigue physique. Ma femme est dans le même état et il ne faut plus songer aux grandes journées de travail d'autrefois.
Pierre Curie à Georges Gouy, 24 juillet 1905.
Nous menons toujours la même vie de gens très occupés pour ne rien faire d'intéressant. Voilà plus d'un an que je n'ai fait aucun travail et je n'ai pas un moment à moi. Évidemment, je n'ai pas trouvé encore le moyen de nous défendre contre l'émiettement de notre temps, et c'est cependant bien nécessaire. C'est une question de vie ou de mort au point de vue intellectuel. Mes douleurs semblent provenir d'une espèce de neurasthénie plutôt que de rhumatisme véritable. Et cela va mieux depuis que je mange plus convenablement et que je prends de la strychnine.
Marie s'oblige à un effort plus intense encore, mais qui dépasse la limite de sa résistance nerveuse. Le 6 décembre 1904, elle met au monde une seconde fille, Ève. Cette seconde naissance, survenue au terme d'une grossesse difficile et d'un accouchement interminable, l'a épuisée. Les charges de la maternité ne l'empêchent pourtant pas de reprendre aussitôt le travail. Tout l'intéresse, une fois de plus, la maison, le laboratoire. Elle suit avec passion les événements qui secouent son pays natal. En Russie, la révolution de 1905 se déchaîne et les Polonais, portés par le fol espoir de la délivrance, soutiennent l'agitation anti-tsariste.
Le 6 juin 1905, au nom de sa femme et au sien, Pierre parle devant l'Académie des sciences de Stockholm. Il évoque les conséquences de la découverte du radium en physique. Elle modifie profondément des principes fondamentaux. En chimie, elle suscite des hypothèses hardies sur la source d'énergie qui entretient les phénomènes radioactifs. En géologie, en météorologie, elle est la clé de phénomènes jusqu'alors inexpliqués. En biologie, enfin, l'action du radium sur les cellules cancéreuses s'annonce efficace. Le radium a enrichi le savoir et servi le bien. Mais ne peut-il servir aussi le mal ?
On peut concevoir encore que dans des mains criminelles, le radium puisse devenir très dangereux. Et ici, l'on peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter, ou si cette connaissance ne lui est pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Des explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Mais ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains des grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Je suis de ceux qui pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles.
L'accueil des savants suédois fait plaisir aux Curie. Ils redoutaient le faste de cette expédition lointaine. Mais elle se révèle d'un agrément inattendu. Pas de foule, peu de personnalité officielle. Pierre et Marie visitent à leur guise un pays dont ils subissent la séduction et bavardent avec des hommes de science. Ils repartent enchantés. Pierre Curie à Georges Gouy, le 24 juillet 1905.
Nous venons de faire, ma femme et moi, un voyage en Suède très agréable. Nous étions délivrés de tout souci et c'était pour nous un repos. Du reste, en juin, il n'y avait presque plus personne à Stockholm et le côté officiel a été beaucoup simplifié de ce fait. La Suède est composée de lacs et de bras de mer avec peu de terre autour. Des pins, des moraines, des maisons en bois rouge. C'est un paysage assez uniforme, mais bien joli et très reposant. Il n'y avait plus de nuit au moment de notre voyage. Et presque tout le temps, un soleil d'automne. Nos enfants et mon père se portent bien. Et ma femme et moi, nous allons beaucoup mieux.
Dans le pavillon du boulevard Kellermann, protégé des importuns comme une forteresse, Pierre et Marie mènent toujours la même vie simple, cachée. Les Curie fuient les réceptions. On ne les voit pas dans le monde. Mais ils ne peuvent toujours éluder les dîners officiels, les banquets en l'honneur de savants étrangers. Le cercle des amis intimes des Curie est d'ailleurs des plus restreints. À côté de quelques artistes comme Louis Fuller ou Auguste Rodin, on y trouve essentiellement quelques savants français. André de Bierne, Jean Perrin et sa femme, qui est la meilleure amie de Marie, Georges Urbain, Paul Langevin, Aimé Coton, Georges Sagnac, Charles-Édouard Guillaume, quelques élèves de l'école de Sèvres. Des savants, tous des savants. Une ère nouvelle s'ouvre devant l'écurie. La France s'est aperçue de leur existence et songe à soutenir leur effort. La première, l'indispensable étape, est la nomination de Pierre à l'Académie des sciences. Le savant se soumet, pour la seconde fois, à l'épreuve de la tournée des visites. Ses partisans, craignant qu'il ne se conduise pas en candidat bien sage, l'abreuvent de 1000 conseils inquiets. Émile Mascard à Pierre Curie, le 22 mai 1905.
Vous êtes naturellement placé en première ligne, sans concurrent sérieux, et la nomination ne laisse aucun doute. Cependant, il est nécessaire que vous preniez votre courage à deux mains et que vous fassiez une tournée de visite aux membres de l'Académie, sauf à laisser une carte de visite cornée quand vous ne trouverez personne à domicile. Commencez dès la semaine prochaine et en une quinzaine de jours, la corvée sera finie.
Émile Mascard à Pierre Curie, le 25 mai 1905.
Mon cher Curie, arrangez-vous comme vous voudrez, mais il faut qu'avant le 20 juin, vous fassiez le sacrifice d'une tournée finale chez les membres de l'Académie, quand vous devriez pour cela louer une automobile à la journée. Les raisons que vous me donnez sont excellentes en principe, mais on doit quelques concessions aux exigences de la pratique. Vous devez aussi songer que le titre de membre de l'Institut vous permettra plus facilement de rendre service à d'autres.
Le 3 juillet 1905, Pierre Curie entre à l'Institut. De justesse, 22 académiciens ont voté pour son concurrent, M. Guernèse. Pierre Curie à Georges Gouy, le 24 juillet 1905.
Je me trouve être à l'Académie sans l'avoir désiré et sans que l'Académie ait désiré m'avoir. J'ai fait une seule tournée de visite en laissant des cartes chez les absents et tout le monde m'a déclaré qu'il était convenu que j'aurais 50 voix. C'est pourquoi j'ai failli ne pas passer. Que voulez-vous ? Dans cette maison, ils ne peuvent rien faire simplement, sans intrigue. En dehors d'une petite campagne fort bien menée, il y a eu contre moi le manque de sympathie des cléricaux et de ceux qui ont trouvé que je n'avais pas fait assez de visites. On m'a questionné sur les académiciens qui voteraient pour moi, et j'ai répondu, je n'en sais rien, je ne leur ai pas demandé. C'est cela, vous n'avez pas daigné leur demander. Et on a fait courir le bruit que je suis un orgueilleux.
Admirateur modéré de l'illustre compagnie, Pierre s'intéresse vivement, en revanche, aux décisions prises en sa faveur par l'université. C'est que son travail en dépend. Le recteur Liard a obtenu pour lui, en 1904, la création d'une chaire de physique. C'est enfin la place, tant souhaitée, de professeur titulaire. Avant d'accepter cet avancement, Pierre demande où sera le laboratoire attaché à ses fonctions. Un laboratoire ? Quel laboratoire ? Il n'est pas question de laboratoire. En un instant, les lauréats du prix Nobel, les parents du radium, découvrent que si Pierre quitte sa situation du laboratoire de physique et de chimie et de sciences naturelles, une annexe de la faculté de Paris, afin d'enseigner à la Sorbonne, il ne pourra plus travailler du tout. Aucun local n'est offert au nouveau titulaire, et les deux pièces dont il disposait au PCN seront, comme il est naturel, attribuées à son successeur. Il lui reste la perspective de monter ses expériences dans la rue. De sa belle plume, Pierre écrit à ses chefs une lettre polie, mais ferme. Puisque le poste prévu ne doit comporter ni salle de travail, ni crédit de recherche, il y renonce. Il gardera au PCN, avec de trop nombreuses heures de cours, le petit local où, tant bien que mal, Marie et lui font œuvre utile. Nouvelle palabre. Dans un grand geste, l'université sollicite enfin de la chambre la création d'un laboratoire et 150 000 francs de crédit. Ce projet est adopté, ou presque. À la Sorbonne, il n'y a décidément pas de place pour Pierre, mais un local de deux pièces va être construit rue Cuvier. Un crédit de 12 000 francs par an sera alloué à M. Curie, qui recevra en outre 34 000 francs à titre de frais d'installation. Le naïf Pierre s'imagine qu'avec ses frais d'installation, il pourra acheter des appareils, compléter son matériel. Oui, il le pourra, mais seulement lorsqu'aura été prélevé sur cette petite somme le prix du nouveau bâtiment. Dans l'esprit des pouvoirs publics, construction et frais d'installation ne font qu'un. Ainsi rétrécissent à l'usage les projets officiels. Pierre Curie à Georges Gouy, 7 novembre 1905.
Je commence mon cours demain, mais je me trouve dans de bien mauvaises conditions pour préparer des expériences. L'amphithéâtre est à la Sorbonne et mon laboratoire rue Cuvier. De plus, il se fait dans l'amphithéâtre un grand nombre d'autres cours et j'ai seulement une matinée pour préparer le cours dans la salle. Je ne vais ni très bien ni très mal, mais je me fatigue facilement et je n'ai plus qu'une très faible capacité de travail. Ma femme, au contraire, mène une vie très active, entre ses enfants, l'école de Sèvres et le laboratoire. Elle ne perd pas de minute et s'occupe beaucoup plus régulièrement que moi de la marche du laboratoire dans lequel elle passe la plus grande partie de sa journée.
Lentement, l'état mesquin fait à Pierre Curie une place dans le cadre de ses fonctionnaires, se laisse arracher mètre carré par mètre carré des locaux de travail, édifie sur un emplacement incommode deux salles que, par avance, on sait insuffisantes. De toutes les décisions du ministre, une seule procure au Curie un vrai plaisir. Pierre aura désormais trois collaborateurs. Un chef de travaux, un préparateur, un garçon. Le chef de travaux sera Marie.
La présence de la jeune femme au laboratoire n'était jusqu'ici que tolérée. C'est sans aucun titre et sans recevoir d'appointement que Marie a accompli les recherches sur le radium. En novembre 1904, une situation stable et payée de 2400 francs par an, lui donne pour la première fois ses entrées officielles au laboratoire de son mari. Adieu le hangar, Pierre et Marie transportent rue Cuvier les appareils qui demeuraient encore dans cette vieille baraque. Elle leur est si chère, elle représente tant de jours d'efforts et de bonheur qu'à plusieurs reprises, ils viendront bras dessus, bras dessous, revoir les murs humides, ces planches pourrissantes. Ils s'adaptent à leur vie nouvelle. Pierre prépare son enseignement. Marie, comme par le passé, fait ses cours à Sèvres. Les époux se retrouvent dans le laboratoire exigu de la rue Cuvier, où André de Bierne, Albert Laborde, un Américain, le professeur Duane et plusieurs assistants ou élèves poursuivent des recherches. Ils se penchent sur les montages fragiles de leurs expériences du moment.
Nous travaillons, Madame Curie et moi, à doser leur radium avec précision par l'émanation qu'ils dégagent. Cela n'a l'air de rien. Cependant, voilà plusieurs mois que nous nous y sommes mis et nous commençons seulement à obtenir des résultats réguliers.
Nous travaillons, Madame Curie et moi. Ces mots, tracés par Pierre 5 jours avant sa mort, expriment l'essentiel et le plus beau d'une union qui ne se desserrera jamais. Chaque progrès de l'œuvre, chacune de leurs déceptions et de leurs victoires lie plus étroitement que jamais ce mari et cette femme. Jeudi 19 avril 1906. Le temps s'annonce maussade. Dans la bousculade de la matinée, les époux s'entrevoient à peine. Pierre et le mari, du rez-de-chaussée, lui demandent si elle ira au laboratoire. Marie, en train d'habiller Irène et Ève au premier étage, dit qu'elle n'aura sans doute pas le temps. Mais ses paroles se perdent dans le bruit. La porte d'entrée claque. Pressé de sortir, Pierre est parti rapidement. Ouvrant son grand parapluie, il s'engage sous l'averse et descend vers la Seine. Chez Gauthier Villard, il trouve porte close. Les ateliers sont en grève. Il repart, atteint la rue Dauphine, toute sonore des cris des cochers, du grincement des tramways qui passent sur le quai voisin. Que d'encombrement dans cette voie encaissée du Vieux Paris. La chaussée permet à peine aux attelages de se croiser et, pour les nombreux passants de ce début d'après-midi, le trottoir est bien étroit. Pierre, d'instinct, cherche un chemin libre. Il marche tantôt sur le rebord de pierre, tantôt dans la rue même, du pas inégal des êtres qui suivent leur méditation. À quoi pense-t-il, le regard concentré, le visage sérieux? À une expérience en cours? Au travail de son ami urbain, dont la note à l'académie qu'il a en poche contient l'exposé? À Marie? Depuis quelques instants, il foule l'asphalte, derrière un fiacre fermé qui roule lentement vers le pont Neuf. Au carrefour de la rue et du quai, le bruit est intense. Un tramway allant vers la Concorde vient de passer le long du fleuve. Coupant sa route, un lourd camion, attelé de 2 chevaux, débouche du pont et s'engage au trot dans la rue Dauphine. Pierre veut traverser la chaussée et gagner l'autre trottoir. Avec la soudaineté de gestes des distraits, il quitte l'abri du fiacre dont la boîte carrée obstruait son horizon et fait quelques pas vers la gauche. Mais il se heurte à une bête fumante, l'un des chevaux du camion qui croise le fiacre à la même seconde. L'espace qui sépare les deux voitures se rétrécit vertigineusement. Surpris, Pierre, d'un mouvement maladroit, tente de s'accrocher au poitrail de l'animal, qui se cabre. Les semelles du savant glissent sur le sol mouillé. Un cri s'élève, fait de 20 cris d'horreur. Pierre est tombé sous les sabots du percheron. Des passants hurlent « Arrêtez, arrêtez !» Le conducteur retient les rênes. En vain, l'attelage continue sa marche. Pierre est à terre, vivant, indemne. Il n'a pas crié, il n'a presque pas bougé. Son corps passe, sans être même effleuré, entre les pieds des chevaux, puis entre les deux roues avant du camion. Un miracle est possible. Mais l'énorme masse, entraînée par son poids de 6 tonnes, franchit plusieurs mètres encore. La roue arrière gauche heurte un faible obstacle qu'elle broie au passage. Un front, une tête humaine. Des sergents de ville relèvent le corps chaud auquel la vie, dans un éclair, a été dérobée. Ils hèlent successivement plusieurs fiacres, mais aucun cocher ne veut recevoir dans sa voiture un cadavre couvert de fange et d'où le sang ruisselle. Les minutes passent, les curieux s'assemblent, se pressent. Une foule de plus en plus dense assiège le camion immobile et des cris de fureur jaillissent vers le conducteur, Louis Manin, auteur involontaire du drame. Enfin, deux hommes apportent un brancard. On y étend le mort et après une étape superflue dans une pharmacie, on le porte au commissariat voisin où son portefeuille est ouvert, ses papiers examinés. Lorsque se répand le bruit que la victime est Pierre Curie, un professeur, un savant célèbre, le tumulte redouble et les agents doivent intervenir pour protéger Manin que menacent les poings tendus.
6 heures, le bruit d'une clé dans la serrure. Marie, gaie, vive, paraît sur le seuil du salon. Elle perçoit vaguement, dans l'attitude trop déférente de ses amis, le signe atroce de la compassion. Paul appelle, rapporte les faits. Marie demeure tellement immobile, tellement figée, que l'on peut croire qu'elle n'a rien compris. Elle ne s'écroule pas dans des bras affectueux, elle ne gémit pas, ne pleure pas. On la dirait aussi inanimée, aussi insensible qu'un mannequin de son. Après un long silence hagard, ses lèvres remuent enfin et elle demande, tout bas, espérant follement on ne sait quel démenti.
Pierre est mort ? Mort ? Tout à fait mort ?
Marie vient de faire l'expérience la plus atroce de son existence, la mort de celui qui était tout pour elle, de celui qui l'avait aimée, entourée, accompagnée dans tous ses efforts. Marie a perdu son compagnon et le monde a perdu un grand homme. Ce départ atroce dans la pluie et la boue a frappé l'opinion. Sur plusieurs colonnes, les journaux de tous les pays décrivent en de pathétiques récits l'accident de la rue Dauphine. Des messages de sympathie s'amoncellent, boulevard Kellermann, où les signatures de rois, de ministres, de poètes, de savants se mêlent à des noms obscurs.
Dans les jours qui suivent, des éloges du savant disparu sont prononcés à la Sorbonne et dans les sociétés scientifiques françaises et étrangères qui comptaient Pierre Curie parmi leurs membres. À l'Académie des sciences, Henri Poincaré exalte la mémoire de son ami. Tous ceux qui ont connu Pierre Curie savent quel était l'agrément et la sûreté de son commerce. Quel charme délicat s'exhalait, pour ainsi dire, de sa douce modestie, de sa naïve droiture, de la finesse de son esprit. Qui aurait cru que tant de douceur cachât une âme intransigeante? Il ne transigeait pas avec les principes généreux dont on l'avait nourri, avec l'idéal moral particulier qu'on lui avait appris à aimer. Cet idéal de sincérité absolue, trop haut peut-être, pour le monde où nous vivons. Il ne connaissait pas ces 1000 petits accommodements dont se contente notre faiblesse. Il ne séparait pas, d'ailleurs, le culte de cet idéal de celui qu'il rendait à la science, et il nous a montré par un éclatant exemple quelle haute conception du devoir peut sortir du simple et pur amour de la vérité. Peu importe à quel Dieu l'on croit, c'est la foi, ce n'est pas le Dieu qui fait les miracles.
Journal de Marie. Le dimanche matin qui a suivi ta mort, Pierre, je suis allée au laboratoire avec Jacques pour la première fois. J'ai essayé de faire une mesure pour une courbe dont nous avions chacun fait quelques points, mais j'ai senti l'impossibilité de continuer. Dans la rue, je marche comme hypnotisée, sans souci de rien. Je ne me tuerai pas, je n'ai même pas le désir du suicide. Mais parmi toutes ces voitures, n'y en aurait-il pas une pour me faire partager le sort de mon aimé ?
Le décès de Pierre Curie a posé des problèmes importants. Quel sera le sort des recherches que Pierre a laissées en suspens et de son enseignement à la Sorbonne ? Que va-t-il advenir de Marie ? Ses proches discutent de ces questions à voix basse, écoutent les suggestions des représentants du ministère et de l'université qui se succèdent boulevard Clermann. Au lendemain des obsèques, le gouvernement a proposé d'accorder à la veuve et aux enfants de Pierre Curie une pension nationale. Jacques a soumis ce projet à Marie, qui a refusé net.
« Je ne veux pas de pension. Je suis assez jeune encore pour gagner ma vie et celle de mes filles. »
Dans sa voix, soudain affermie, a résonné le premier, le faible écho de son habituelle vaillance. Entre les autorités et la famille Curie, les échanges de vues subissent quelques flottements. L'université est disposée à garder Marie dans ses cadres, mais à quel titre et dans quel laboratoire? Peut-on mettre cette femme de génie sous les ordres d'un chef? Et où trouver un professeur compétent pour diriger le laboratoire de Pierre Curie? Consultée sur ses désirs, Madame Curie répond vaguement qu'elle n'est pas en mesure de réfléchir, qu'elle ne sait pas. Jacques, Brogna et le plus fidèle ami de Pierre, Georges Gouy, sentent qu'ils doivent prendre à la place de Marie les décisions et les initiatives. Jacques Curie et Georges Gouy font part au doyen de la faculté de leurs convictions. Marie est le seul physicien français capable de poursuivre les travaux que Pierre et elle avaient entrepris. Marie est le seul maître digne de succéder à Pierre. Marie est le seul chef de laboratoire qui puisse le remplacer. Il faut bousculer traditions et usages et nommer Madame Curie professeure à la Sorbonne. Sur la vive insistance de Marcelin Berthelot, de Paul Appel, du vice-recteur Liard, les pouvoirs publics font, en la circonstance, un geste franc et généreux. Le 13 mai 1906, le Conseil de la Faculté des Sciences décide à l'unanimité de maintenir la chaire créée pour Pierre Curie et de la confier à Marie, qui prendra le titre de chargée de cours. C'est la première fois qu'un poste dans l'enseignement supérieur français est accordé à une femme. Marie a écouté distraitement les détails que lui donnait son beau-père sur la lourde mission qu'elle se devait d'accepter. Elle n'a répondu que quelques syllabes.
« J'essaierai. »
Une phrase prononcée autrefois par Pierre, une phrase qui était un testament moral, un ordre, est remontée à sa mémoire, lui a indiqué formellement sa route.
« Quoi qu'il arrive, et dût-on être comme un corps sans âme, il faudrait travailler tout de même. »
Journal de Marie. « On m'offre de prendre ta succession, mon Pierre. Ton cours et la direction de ton laboratoire, j'ai accepté. Je ne sais si c'est bien ou mal. Tu m'as souvent dit que tu aurais voulu que je fasse un cours à la Sorbonne, et je voudrais au moins faire un effort pour continuer les travaux. Quelquefois, il me semble que c'est ainsi, qu'il me sera plus facile de vivre. D'autres fois, il me semble que je suis folle d'entreprendre cela. » 7 mai 1906. « Mon Pierre, je pense à toi sans fin. Ma tête en éclate et ma raison se trouble. Je ne comprends pas ce que j'ai à vivre désormais sans te voir, sans sourire aux doux compagnons de ma vie. Depuis 2 jours, les arbres ont des feuilles et le jardin est beau. Ce matin, j'y ai admiré les enfants. J'ai pensé que tu les aurais trouvées belles et que tu m'aurais appelé pour me montrer les pervenches et les narcisses en fleurs. Hier, au cimetière, je n'arrivais pas à comprendre les mots « Pierre Curie » gravé sur la pierre. La beauté de la campagne me faisait mal et je ramenais mon voile pour voir tout au travers de mon crêpe. »
En Sorbonne, ce 5 novembre 1906, 1h30, la porte du fond s'ouvre et dans une rafale d'applaudissements, Madame Curie gagne la chaire. Elle incline la tête, c'est un mouvement sec qui voudrait être un salut. Debout, ses mains serrant fortement la longue table chargée d'appareils, Marie attend que l'ovation cesse. Elle cesse d'un coup, devant cette femme blême qui tente de se composer un visage. Une émotion inconnue réduit au silence la foule venue pour du spectacle. Marie regarde droit devant elle et elle dit.
« Lorsqu'on envisage les progrès qui ont été accomplis en physique depuis une dizaine d'années, on est surpris du mouvement qui s'est produit dans nos idées sur l'électricité et la matière. »
Madame Curie vient de reprendre le cours à la phrase précise où l'avait laissé Pierre Curie. Que peuvent-ils donc receler de si poignants ces mots glacés, Lorsqu'on envisage les progrès qui ont été accomplis en physique, des larmes montent aux yeux, coulent sur les visages. De la même voix unie, presque monotone, la savante fait jusqu'au bout sa leçon de ce jour-là. Elle parle des théories nouvelles sur la structure de l'électricité, sur la désintégration atomique, sur les corps radioactifs. Ayant atteint sans faiblir la fin de l'aride exposée, elle se retire par la petite porte, aussi rapidement qu'elle était entrée. Marie vient de rendre à Pierre le plus bel hommage qui puisse être, celui de la mémoire et du travail poursuivi au service de la science. David Mascret, si vous aviez quelques ouvrages à recommander à nos auditeurs sur Pierre et Marie Curie.
Je recommanderais particulièrement l'ouvrage d'Anna Jurwicz, intitulé Pierre Curie, paru aux éditions Flammarion en 1995. L'ouvrage de Soraya Boudia, Marie Curie et son laboratoire, paru aux éditions des Archives contemporaines en 2001. Et puis, bien sûr, le célèbre Madame Curie, rédigé par F. Curie, paru en 1938 et réédité chez Gallimard Folio en 1994.
Merci David Mascret, merci à vous aussi Fernand Guillot, merci Brigitte Veil. Je voudrais aussi rappeler qu'en cette année 2006, eh bien, nous nous remémorons deux événements de l'année 1906. D'abord l'accident de Pierre Curie le 19 avril 1906 et puis la leçon inaugurale de Marie Curie en Sorbonne le 5 novembre 1906. C'est une célébration nationale.